Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux résultats de l'escrime française aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En escrime, de façon surprenante, certains tireurs français ont semblé intimidés par l'ambiance exceptionnelle qui régnait sous la verrière du Grand Palais. Il y a bien sûr des exceptions, à commencer par celle éclatante de Manon Appiti-Brunet, championne olympique de sabre, galvanisée par le soutien du public. Les épéistes, Oriane Malo-Breton et Yannick Borel, ainsi que la sabreuse Sarah Balzer, tous trois vice-champions olympiques, ont également été au rendez-vous. À cela s'ajoutent deux médailles de bronze, le fleuret par équipe homme et le sabre par équipe homme, soit un total final de 6 médailles, une en or, 3 en argent, 2 en bronze. Mais si l'on fait le compte des assauts décisifs pour une médaille, finale ou match pour la troisième place, le constat est assez surprenant. Les Français n'ont remporté que 3 assauts sur 9 grâce à Manon Appiti-Brunet et aux équipes de sabre et de fleuret masculin médaillées de bronze. Deux sabreuses françaises, Manon Appiti-Brunet et Sarah Balzer, ont décroché respectivement l'or et l'argent. C'est la première fois qu'une Française remporte le titre olympique en sabre. En escrime, la dernière finale olympique franco-française remontait au titre à l'épée conquis par Laura Flessel, aux dépens de Valérie Barlois, lors des Jeux d'Atlanta en 1996. Aucune escrimeuse française n'avait remporté de titre olympique depuis lors. Manon Appiti-Brunet a mis fin à cette longue parenthèse au terme d'une finale maîtrisée, 15 touches à 12. Comme il est de coutume en escrime quand deux coéquipières se rencontrent, les deux femmes ont disputé la finale sans bénéficier des conseils des entraîneurs nationaux. Manon Appiti-Brunet, âgée de 28 ans et originaire de Lyon, et Sarah Balzer, 29 ans, strasbourgeoise, se sont croisés pour la première fois il y a près de 18 ans, à l'occasion de compétitions réservées aux jeunes escrimeurs. Elles sont entrées la même année, en 2013, à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP, où est regroupée l'élite nationale. Un cocon que la future championne olympique a quitté en 2022, après s'être sentie au bord du burn-out, selon son propre aveu, pour aller s'entraîner à Orléans, sous la houlette du maître d'armes Christian Bauer, où l'avait précédé son époux, le sabreur Bolladé Appiti, lui aussi présent dans la sélection pour les Jeux Olympiques de Paris. Dans la compétition par équipe de sabre féminin, Manon Brunet Appiti et sa dauphine Sarah Balzer n'ont pas réussi à décrocher la moindre médaille alors qu'elles étaient les grandes favorites. Avec Cécilia Berder et la remplaçante Sarah Nucha, elles ont calé sec en demi contre les Sud-Coréennes, 36 à 45, puis dans la petite finale contre le Japon, 40 à 45. C'est l'Ukraine qui a remporté le titre par équipe au sabre féminin. Côté masculin, au sabre, les sabreurs sud-coréens ont remporté un troisième titre par équipe d'affilée aux Jeux Olympiques devant la Hongrie. Les Français, eux, ont empoché une belle médaille de bronze. Pour la finale, l'opposition est flagrante. Entre Aaron Szilagyi, 34 ans, triple champion olympique en 2012, 2016 et 2021, héritier de la séculaire tradition hongroise du sabre, et son successeur, Oh Sang-yuk, 27 ans, couronné 4 jours auparavant dans l'épreuve individuelle et incarnation du sabre moderne. D'un côté, une escrime hongroise classique, technique, bien léchée, caractérisée par une étonnante dissociation entre le haut et le bas du corps, ainsi que par la verticalité du buste. De l'autre, une vivacité sud-coréenne sans égale, une escrime bondissante et tonique, des qualités physiques alliées à une grande souplesse. Aaron Szilagyi eut beau déposer quelques touches d'une grande pureté sur la cuirasse de son adversaire et amorcer une remontée improbable, Ce fut en vain. Les Sud-Coréens avaient creusé un tel écart lors des relais précédents que le titre olympique ne pouvait leur échapper. En s'imposant par 45 touches à 41, ils conservaient la couronne conquise en 2012 et en 2021. L'épreuve de sabre par équipe ne figurait pas aux Jeux de Rio en 2016. C'est une statistique qui dit tout. Des Jeux de 1908 à ceux de 1964, en 12 éditions, les sabreurs hongrois n'ont laissé échapper qu'un seul titre individuel, celui des Jeux de 1920, auquel la Hongrie, figurant parmi les vaincus de la Première Guerre mondiale, n'avait pas été conviée. Dans le monde de l'escrime, la Hongrie, pays d'Europe centrale, est une superpuissance, la troisième nation par le nombre de médailles olympiques, 90, après l'Italie 130 et la France 123 médailles. Et pourtant, une anomalie. Assurément, si l'on considère le nombre de licenciés de la Fédération hongroise d'escrime, qui est seulement de 3900 athlètes, 14 fois moins que son homologue française. Pour mesurer la place de l'escrime, et du sabre en particulier, dans l'imaginaire du pays, une visite de l'imposant musée national hongrois à Budapest s'impose. Les vitrines y regorgent de lames recourbées, les plus anciennes datant du XIe siècle, et des invasions de nomades venus des confins de la Sibérie. Les sabres ottomans du XVIe et du XVIIe siècle témoignent de la période de domination turque. Plus loin, des sabres de hussards viennent rappeler que ce corps de cavalerie légère vit le jour en Hongrie. Le sabre de cérémonie du compositeur Franz Liszt, Ferenc pour les Hongrois, et celui de Lajos Kossuth, héros de la révolution hongroise de 1848, comptent parmi les pièces maîtresses du musée. Les maîtres d'armes hongrois ont eux-mêmes contribué à l'homogénéisation de l'escrime internationale en allant monnayer leur savoir-faire et leur technique auprès de fédérations étrangères. C'est d'ailleurs en allant s'abreuver à la source hongroise que le sabre français a retrouvé son lustre. Avant même de recruter Laszlo Csepessy, qui conduisit Jean-François Lamour à un doublé olympique en 1984 et 1988, la Fédération française d'escrime organisait chaque année un échange avec son homologue hongroise. Stage d'entraîneur français de sabre en Hongrie contre séjour de maître d'armes hongrois de Fleuré dans l'Hexagone. Le premier jour des Jeux, l'épéiste Oriane Malo-Breton était passé de peu à côté de l'or et se contentait de l'argent, battu par la hongkongaise Wan Mein Wiyan Kong. 24 heures plus tard, Yannick Borel avait dû écouter depuis la deuxième marche du podium l'hymne japonais. Le phénomène épée a commencé bien avant, plus à l'est, avec des premières traces en Turquie à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, et il va se répandre à l'âge du bronze. À cette époque, dans une Europe dynamique et ouverte, parcourue par les échanges commerciaux, une élite sociale, économique et politique émerge en corrélation avec la naissance de la métallurgie. Un de ces moments où une nouvelle technologie change le cours de l'histoire et produit des objets inédits. Ce processus d'amélioration technologique se poursuit à l'âge du fer, où sont produites des épées plus solides qui, par voie de conséquence, peuvent s'affiner. Les archéologues, fouillant ces époques lointaines, ont mis au jour quantité d'épées, inhumées avec des défunts, offertes entières ou cassées, dans des dépôts jetés dans des cours d'eau comme la Saône, où beaucoup ont été retrouvées. Des épées par centaines, voire par milliers. Mais pour quoi faire? Combattre à la guerre, évidemment, comme le montre celle retrouvée sur le site allemand de la bataille de la rivière Tolence, 13e siècle avant Jésus-Christ, plus ancien théâtre de guerre connu en Europe. Des traces de compétition d'escrime se trouvent à Rome. La théorie du maniement des armes fut enseignée aux soldats à partir du consulat de Publius Rutilius. Celui-ci doit privilégier les coups d'estoc, portée avec la pointe du glaive, arme parfaitement conçue pour cet usage, et non avec le tranchant. Au Moyen-Âge, l'épée conserve son double usage, arme de combat ou de duel, et arme de compétition lors des tournois. L'ambivalence de l'escrime, activité à la fois militaire et sportive, commence à se dissiper avec l'arrivée des armes à feu sur les champs de bataille, qui rendent en grande partie les épées obsolètes. Mais les nobles continuent à vouloir emporter puisqu'elles symbolisent leur caste. En effet, les épées ont changé grâce à l'évolution des métaux et à la maîtrise de l'acier, plus souple et résistant, et sont plus facilement transportables. C'est ainsi qu'en 1628 est publiée une fascinante et très géométrique publication d'escrime scientifique, signée du maître d'armes hollandais Gérard Thibault. Pour s'entraîner à cette escrime scientifique, on crée une arme d'étude légère, le fleuret. Puis, ultime étape du glissement vers la pratique purement sportive, le maître d'armes français Nicolas Texier de la Boissière invente, aux alentours de 1750, le masque d'escrime grillagé. Jusque-là, après l'attaque, on attendait que l'adversaire se relève avant de porter la riposte pour éviter de toucher les yeux. Mettre un masque a permis d'avoir des enchaînements. La main s'est libérée, la vitesse est entrée dans l'escrime. Les premiers combats aux Jeux Olympiques avaient lieu en une seule touche, l'équivalent du premier sang versé. Puis la première touche a compté double. Et quand on a inventé l'appareillage électrique, la question s'est posée de savoir quelle pression mettre au ressort situé dans la pointe de l'arme pour que la lampe s'allume.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.